On accueille maintenant Odile au 3921. Bonsoir Odile.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Odile?
Alors je vous appelle du Jura.
Du Jura.
Au 39, voilà.
D'accord. Qu'est-ce qui vous amène, ma chère Odile?
Bah, écoutez, je voulais vous parler de l'handicap. Hein. Je suis maman de Benjamin, il a 32 ans. Il est né avec une infirmité motrice et cérébrale. Et à l'âge de 16 ans, il a contracté des maladies psychiatriques. Donc, ça l'a amené à des hospitalisations. Et c'est sur ce sujet que j'aimerais parler avec vous.
Oui.
Car actuellement, en hôpital psychiatrique, dont l'hôpital psychiatrique de mon département, c'est dramatique. Les prises en charge sont dramatiques. Donc, si vous voulez, Benjamin a un parcours un petit peu, je dirais, particulier. Benjamin est resté avec moi jusqu'à l'âge de 20 ans. Il a suivi une scolarité normale. Il a suivi une scolarité jusqu'à ses 13 ans. Donc, il a appris à écrire et à lire. À l'âge de 13 ans, il est parti dans un IME. Ça, c'est pas bien passé pour lui. Donc, je l'ai repris à la maison de ses 17 à ses 20 ans. À l'âge de 20 ans, je l'ai mis sous curatelle parce que Benjamin n'était pas capable de gérer et n'avait pas la notion de l'argent. Et j'ai tenté d'être sa curatrice, mais le problème, c'est que ça n'allait pas.
Donc, c'était la guerre, je suppose, quand
oui,
la maman ou le papa
plus...
sont...
Voilà. Ouais. Il voulait plus d'argent qu'il en avait.
Oui.
Donc du coup, je l'ai mis sous curatelle. À l'âge de 20 ans, il a claqué la porte, il est parti. J'ai rien pu faire. Donc il s'est retrouvé dans une association pour une réinsertion de gens qui sortaient de prison. Donc là-bas, il y a connu la drogue. Donc j'ai pas arrêté de me battre, j'y allais, enfin voilà. De là, j'ai réussi à le sortir de cet endroit. Il est parti à Maison Relais. Donc Maison Relais, c'était encore plus catastrophique. Maison Relais, c'était aussi des gens qui étaient dans l'attente de structure. Mais il faut savoir qu'il y avait une maîtresse de maison de 8h le matin à 21h le soir. Et après, ils étaient livrés à eux-mêmes. Donc ils avaient des petits appartements qu'ils partageaient à quatre. Et ben, ils recevaient tous les gens de la rue, etc. Voilà. J'y suis allée à plusieurs reprises. J'ai retrouvé mon fils dans des états lamentables. Je lui ai amené à manger. À l'époque, je travaillais de nuit. Donc, c'était pas très loin de mon lieu de travail. Donc, je passais en voiture. Je lui lavais ses vêtements. Je lui posais des tupperwares dans sa chambre de façon à ce qu'il puisse manger. Et il était vraiment pas pour revenir à la maison. Il me disait qu'il se plaisait, que pour une fois, il était avec des gens qui le comprenaient, etc., etc. Donc j'ai réussi, tout en me battant, à le sortir de là et je l'ai mis dans un femme, foyer d'accueil médicalisé.
Mmh.
Il n'y a pas trouvé sa place, parce qu'il faut savoir que Benjamin, il a manqué d'oxygène à la naissance, mais il a un côté où il est très très intelligent, il se rend compte de comment il est, etc. Donc il me disait que il y avait que lui qui parlait, les autres étaient plus lourdement handicapés que lui, donc il était en colère, etc. Donc j'ai mis ma carrière professionnelle de côté de 2017 à 2000 que je vous raconte pas de bêtises, non de 2010 de 2015 à 2018. J'ai fait un appartement à Benjamin en bas de la maison en me disant ben, je vais lui redonner une chance. Et voilà. Donc, Benjamin était suivi au CMP par une psychiatre qui l'écoutait trop parce que Benjamin était dans le déni de sa maladie. Il voulait travailler. Il parlait que de ça, qu'il était capable de travailler tout en sachant qu'il en est incapable,
oui,
puisqu'il fatigue trop vite. Il a des problèmes de concentration.
Mm-hmm.
J'avais fait en sorte qu'il fasse des stages en ESAT, en atelier protégé, ça n'a pas marché. Donc, si vous voulez, la psychiatre lui laissait lui laissait ce rêve, en fait. Hein. J'avais beau lui dire, écoutez, il faut le mettre face à ses réalités, il faut qu'il se rende compte de ses pathologies, les difficultés qu'il a. Je lui dis, à la maison, rien que pour ranger sa chambre, il n'y arrive pas, c'est compliqué. On lui demande parfois de faire des choses, il fatigue vite, donc elle ne voulait pas m'entendre. Donc à l'époque, j'avais aussi l'aide de deux personnes qui me venaient à domicile, qui s'appellent le SAVS. Donc c'est deux éducatrices qui passaient une heure par semaine à la maison. Elles n'ont pas voulu m'écouter, donc elles l'ont emmené à Pôle emploi. Et ben, il s'est retrouvé devant la personne de Pôle emploi qui lui a clairement dit voilà, je ne peux pas vous trouver d'emploi, quoi. C'est pas possible. Donc Benjamin est reparti en hospitalisation sur le site de Saint-Thierry. Et toujours la même galère, quoi. Je veux dire, la maltraitance, les humiliations, les contentionnements et les isolements abusifs. Nous, les abus de pouvoir. Nous, en tant que parents, on est menacés parce qu'ils veulent absolument qu'on se taise. Donc moi, j'ai retrouvé mon fils avec des bleus, j'ai retrouvé mon fils dans sa protection puisqu'il a une prostatite pleine d'urine, parce que si vous voulez, ce jour-là, d'habitude, il faut prévenir avant d'y aller, hein. Puis on a le droit à tant d'heures près d'eux, on a le droit à tant d'appels téléphoniques, on ne fait pas ce qu'on veut, hein, du tout, c'est eux qui gèrent. Donc le jour-là, en fait, il y avait eu un problème de transmission, et quand je suis arrivée, j'ai retrouvé mon fils, mais dans un état lamentable. Il n'avait pas dû être douché depuis plusieurs jours et il était dans une protection pleine d'urine. Donc, je n'ai pas voulu faire de scandale avec Benjamin, devant Benjamin. Donc, j'ai pris l'infirmière à part et je lui ai rappelé à l'ordre en lui disant qu'il était inadmissible que je retrouve mon fils comme ça. Tout en sachant que si on n'y allait pas, si j'y allais pas chaque semaine, il n'était pas rasé, c'est moi qui lui coupais les ongles, sa sœur aussi. Hein. Voilà, donc bien sûr, j'ai commencé à me mettre à dos un petit peu l'équipe. J'ai demandé des rendez-vous avec la psychiatre, avec la cadre infirmière. J'ai eu des menaces de soignants. Il y a même un soignant qui m'a dit qu'il allait déposer plainte contre mon fils. Enfin, l'enfer, quoi. En sachant que l'automne dernier, Benjamin a eu un portable et il a appelé la police de Dole. En leur disant qu'il était maltraité, donc ça a fait un scandale, bien sûr. On lui a supprimé son portable et ça lui a valu 11 jours d'isolement et 2 jours de contention. Donc imaginez bien, quand vous savez que votre fils est attaché et enfermé dans une chambre de 10 mètres carrés et que vous, à l'extérieur, vous avez aussi votre vie, c'est très 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 difficile à vivre. Donc, en 2018, si vous voulez, on m'a parlé de la Belgique, parce qu'en gros, on voulait un petit peu s'en débarrasser. J'étais contre, je ne voulais pas que Benjamin parte, parce que j'espérais...
Lorsque vous dites « on voulait s'en débarrasser », Odile, vous parlez du système médical, psychiatrique français.
Voilà.
D'accord.
Parce que c'est comme ça qu'ils procèdent. Hein. Je ne suis pas la seule maman, je vous expliquerai après pourquoi. Donc, si vous voulez, j'ai eu le droit à tout. Hein. J'ai eu le droit à des menaces en me disant que si je continuais, je pourrais être un problème pour les bons soins de mon fils. On m'a reproché d'être trop fusionnelle avec lui. On m'a reproché de trop venir, on m'a reproché de trop gérer les vêtements, etc. Parce qu'il faut savoir qu'en hôpital psychiatrique, on leur vole tout. Ils trafiquent, ils se droguent au sein même de l'établissement, ce que j'ai fait constater avec mon époux au 19 février 2020, au dernier rendez-vous que j'ai eu avec eux.
On a eu plusieurs appels hein, ici. De jeunes gens qui souffraient de schizophrénie et qui avaient fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique et qui nous ont décrit aussi ces conditions, j'allais dire des conditions de détention, mais ça n'est pas ça, hein, ces conditions d'hospitalisation et un traitement assez particulier à coup de médicaments et à coup de je ne sais plus, de camisole de force. Et il est vrai que... Plusieurs fois, on a senti un certain malaise entourant l'hospitalisation des personnes souffrant de troubles psychotiques. Oui. On va continuer à en parler avec vous, Odile, et puis on va évoquer la Belgique, parce que vous me parlez de la Belgique et je me doute que là encore, nos chers voisins belges sont plus au fait que nous, mais on va en parler, on marque une petite pause si vous le voulez bien, d'accord ?
D'accord.
À tout de suite.
À tout de suite.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Il est 23h16, vous êtes bien sur votre libre antenne. Et si vous êtes en voiture, faites attention à vous, bien évidemment. Odile, on parle de la Belgique. À un moment, vous avez l'idée de la Belgique comment ? Vous en avez entendu parler ? Comment ça se passe ?
Non. En fait, c'est eux qui m'en ont parlé, la psychiatre qui m'en a parlé en 2018.
D'accord.
Donc au départ, bien sûr, j'étais contre, par le nombre de kilomètres, parce que j'étais quand même habituée à voir mon fils quelques fois par mois. Je le prenais aussi à la maison quand il allait bien, en week-end, sur 48 heures maximum.
Oui.
Donc voilà, mes habitudes avec lui, voilà. Et en fait, en 2018, on me parle de la Belgique. Et c'est à ce moment-là que je me suis intéressée à la Belgique. Et qu'il y a eu un moment, je me suis posé cette question en me disant qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Je veux dire, Benjamin ne m'appartient pas. Le but aujourd'hui, c'est qu'il puisse être
qu'il soit
heureux
bien,
quelque part.
Qu'il soit bien.
Voilà,
ouais.
Bien. Donc, je me suis intéressée à la Belgique. Et j'ai... Je suis tombée sur une petite structure qui s'appelle la résidence Ileria à Villers-le-Bouillet. C'est un jeune infirmier psychiatrique qui a racheté des bâtiments, qu'il a fait de lui-même. Hein. Je peux vous dire qu'il a beaucoup bossé. Donc c'est un petit centre familial où ils sont quelques résidents, ils sont une dizaine de résidents.
Oui.
D'ailleurs, il y a encore de la place hein, s'il y a des mamans qui écoutent. Et Benjamin est arrivé le 4 juillet en Belgique. Donc, nous y sommes allés le week-end dernier avec mon époux. Hein, parce que bon, c'était quand même compliqué aussi pour Benjamin hein, de passer de 3 ans de psychiatrie dans un lieu où il est libre, où il faut retrouver des repères de liberté, d'autonomie. Hein, parce qu'il faut savoir qu'en psychiatrie, on les infantilise. Donc, c'était un petit peu compliqué. Ça va mieux aujourd'hui. Le directeur avec qui j'ai des très, très bons contacts, parce que c'est vraiment quelqu'un d'humain. Et d'ailleurs, je pourrais dire que ça fait du bien de rencontrer des gens comme lui. Ça existe encore. Et ça va un petit peu mieux maintenant. Benjamin arrive à reprendre ses repères. Il commence à se rendre compte qu'il est vraiment bien. Il fait des activités. Ils vont au restaurant, ils vont au bowling. Ce qu'il ne faisait pas depuis des années, parce qu'il était enfermé dans sa chambre. Et pour la Belgique, j'ai vraiment eu la chance. Il faut savoir que ce n'est pas partout pareil en Belgique. Hein. Aujourd'hui, il y a des centres qui poussent comme des champignons par des gros groupes pharmaceutiques et ça devient aussi comme la France. Quoi. Donc
qu'est-ce,
il faut quand même faire
fait,
attention.
Odile, ouais. Qu'est-ce qui fait que l'on trouve ce type de structure en Belgique et pas en France ?
En France, on se donne pas les, on se donne pas, on... enfin, l'handicap n'intéresse personne, quoi. Moi, je peux vous le dire parce que je vais vous expliquer. J'ai créé un groupe sur ma page Facebook qui est Libre d'être Benjamin. Et dans le même hôpital que Benjamin se trouvait un jeune homme qui s'appelle Dimitri. Et ce jeune homme, je le connaissais pas puisqu'il était toujours enfermé. Il vit enfermé depuis des années. Et un jour, j'étais allée voir Benjamin et Benjamin avait un œil au cocard. Et j'avais pris des photos, c'était la fête des mamans, pour montrer à mes filles, pour montrer à la famille. Et en fait, il lui restait un restant de cocard à l'œil. Et il y a un infirmier qui m'avait vu le prendre en photo. Je ne vous explique pas les problèmes derrière. Pourquoi vous prenez votre fils en photo ? Vous pensez qu'on le maltraite ? Oui, je pense que vous le maltraitez. Je suis persuadée qu'il est maltraité, je le sais. Aujourd'hui, je le sais encore plus parce que si vous voulez, moi, je me suis greffée à l'association Dimitri, soutien à Dimitri Farjette, qui est devenu un ami, Nicolas, qui se bat pour son frère, qui lui est enfermé depuis des années. Il est autiste non-verbal et non-voyant. Il vient à domicile un mercredi tous les 15 jours chez sa maman. Lui se bat depuis 4 ans. Il a écrit des courriers partout, personne ne lui a répondu, même au gouvernement. à des associations pour l'autisme, etc. Il a fait des manifestations dans notre département. D'ailleurs, il y a 15 jours, j'ai réussi à avoir un entretien avec la députée de notre Jura. Il lui avait écrit, d'ailleurs, lors de l'entretien, il est venu, elle était surprise qu'il soit avec moi. Il lui a rappelé qu'il lui avait écrit à plusieurs reprises, mais qu'elle lui avait jamais répondu, et qu'elle me répondait à moi, parce qu'au départ, il voulait me donner une de ses collaboratrices, et j'ai pas voulu. J'ai dit, moi, je suis désolée, je suis citoyenne française, je vote, et voilà, je veux la rencontrer, elle, c'est avec elle que je dois parler. Donc nous l'avons rencontrée, donc elle nous a clairement dit qu'elle ferait ce qu'elle pourrait, sans nous dire, en gros, on avait plutôt l'impression de la gêner. Autre chose, et si vous voulez, moi je me suis greffée à cette association, qui est l'association Soutien Dimitri Farjette, parce que Dimitri est enfermé, et parce que Nicolas a un combat depuis 4 ans, et que moi j'ai simplement commencé avec lui mon combat au mois de juillet. J'ai attendu que Benjamin quitte le site de Saint-Ily, par peur de représailles. Je ne me suis pas, si vous voulez, vraiment engagée avec Nicolas.
Et donc ce combat, en fait, vous le menez comment, à travers quel type de manifestations, vous écrivez, vous appelez les institutions, comment faites-vous?
Ben, on écrit, on a contacté des associations qui ne peuvent rien faire, qui ne font rien. On a écrit partout, on a écrit à l'ONU, aux droits de l'homme, à notre ministre de la Santé, à notre procureur, parce qu'il faut savoir que personne ne veut prendre nos plaintes. À chaque fois qu'on va en gendarmerie, malgré le vécu de Nicolas, de Dimitri, parce que Dimitri a vécu des choses terribles, et mon fils aussi, on n'est pas écouté. Oui. Les gendarmes ne veulent pas prendre nos plaintes, la police également.
C'est très difficile de demander aux gendarmes ou à la police d'accepter de prendre des plaintes, même si ils sont obligés de prendre ces plaintes normalement, mais contre une corporation qui est aussi exposée aussi, parce que on sait que c'est un milieu qui est difficile pour les personnes qui sont hospitalisées, bien évidemment, mais c'est un métier difficile aussi, on sait, c'est lourd dans ces centres hospitaliers psychiatriques, donc j'entends que c'est compliqué pour eux aussi.
Bah, disons que oui, c'est compliqué pour eux, je suis d'accord avec vous, mais je veux dire, ils prennent des gens qui ne sont pas formés. Je pense que quand on travaille en psychiatrie, il faut avoir un minimum de formation, faut savoir se contenir. Les soignants, c'est pas ce qu'ils font, ils humilient. Benjamin a été humilié. Nous, aujourd'hui, on a monté une association, on a pu avoir des témoignages, donc j'ai eu des témoignages de gens qui ont connu mon fils en hospitalisation, qui ont témoigné en disant ce qu'il avait vécu, l'humiliation, la maltraitance. Ouais. Benjamin a du mal à manger parce qu'il a des problèmes de déglutition, etc. Il arrive en Belgique dans un état lamentable, il maigrissait, j'arrêtais pas de leur dire qu'il fallait faire quelque chose, tout en sachant que Benjamin mangeait dans une salle tout seul, parce qu'apparemment les autres patients ne supportaient pas sa façon de manger, parce que de très grosses difficultés à ce niveau-là. Là, en Belgique, il a repris du poids.
En quoi, c'est ça? En quoi, j'aimerais que vous me parliez un peu de la Belgique. En quoi sont-ils plus avancés là-bas? Qu'est-ce qui est, pour vous, significatif vraiment? Qu'est-ce qui est différent de la France et qui saute aux yeux pour vous aujourd'hui dans la méthode qu'est celle des Belges d'accueillir Benjamin et de lui rendre un peu confiance en lui, j'ai l'impression?
Oui, c'est ça. En fait, c'est un jeune directeur qui veut lui donner confiance en lui, qui lui a rendu une certaine autonomie. Il faut savoir que Benjamin, il commence seulement à bien ranger, à faire des choses qu'il ne faisait pas spécialement
avant.
Il range sa chambre aujourd'hui. Oui. Il range sa chambre aujourd'hui. Il participe. Il commence à s'intéresser aux animaux parce que il y a des animaux. Et puis la prise en charge, elle est elle est respectueuse, le personnel est là, elle écoute.
Comment est-ce prise en charge financièrement, Odile ?
Alors, si vous voulez, la prise en charge financière, elle passe par la MDPH.
Oui.
MDPH doit faire une notification qui doit être envoyée à la CPAM. Et c'est le médecin conseil de la CPAM qui décide de oui ou non du financement. Mais il faut attendre. Hein. Moi, ça a duré 2 ans et demi.
Hein. Oui, oui.
Pour 2 documents. Hein.
D'accord. Et est-ce que vous avez une idée de combien ça coûte ? Quel est l'effort de la MDPH à ce niveau-là ?
En France, ça coûte plus de 6 000 euros par jour. En Belgique, ils ont 1 500 euros pour le mois, quoi.
6 000 euros par jour, comment ça ?
Ben, j'ai pas, dommage, Olivier, parce que j'ai pas les chiffres sous les yeux.
Oui, parce que 6 000 euros par jour, pas par malade, quand même.
Si, par malade.
Ah oui, d'accord. Et en Belgique, donc, c'est réduit à 1 500.
Ah ben non, en Belgique, par contre, on leur donne 1 500 euros, et puis, débrouillez-vous, quoi. C'est pour ça qu'on les envoie en Belgique.
D'accord, mais 1 500 euros pour le mois, ça n'est pas par jour, non ? Ça me semble énorme.
Pour le mois.
Ah oui, pour le mois. Pour le mois, d'accord.
Mais la prise en charge en hôpital psychiatrique, elle vaut une fortune.
Oui, oui, je me doute.
Ouais.
Donc,
on
en fait,
dites voir.
Ce qui est important ce soir dans votre témoignage, Odile, c'est pour toutes celles et ceux, parents, familles de ces personnes portant de handicaps lourds comme ces handicaps psychotiques, hein, qui peuvent, à travers votre témoignage, apprendre qu'il y a un pont avec la Belgique. Ce n'est pas la première fois que j'en entends parler, de ces centres où il y a une autonomie, qui est offerte, hein, et proposée à ces personnes, et où ça marche, hein, visiblement.
Oui, ça marche, mais bon, il faut savoir qu'ils ont un éloignement familial aussi. Hein. Nous, on y allait, c'est 12 heures de route aller-retour. Hein.
Oui, mais bon voilà. il faut se dire tout de même que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pour le bien de Benjamin, et qu'aujourd'hui, voilà, même ces kilomètres vous pèsent, le fait de voir votre fils mieux dans sa peau, ça n'a pas de prix. On va marquer encore une légère pause, si vous le voulez bien, Odile, avant de conclure, et puis on se retrouve dans quelques instants, d'accord ?
D'accord.
À tout de suite, Odile.
À tout de suite, Olivier.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
23h30 sur Europe 1, et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez nous joindre, chers amis, au 39-21, comme Odile ce soir l'a fait, comme Brigitte le faisait jeudi dernier. Odile, j'ai une jeune éducatrice qui nous envoie au 739-21 un message qui nous dit « Je travaille dans un SAVS auprès de jeunes adultes schizophrènes depuis 9 ans. Il est vrai que la Belgique, tout comme le Canada, sont des pays extraordinaires concernant le domaine du médico-social, ils sont très en avance sur nous.
Et ils ne les mélangent pas, surtout.
C'est toujours assez curieux d'entendre le témoignage d'une maman comme vous ce soir, et de se dire que ces témoignages, on les entendait il y a déjà 10 ans, même il y a 20 ans.
Ça,
oui, ça, on a l'impression que ça n'avance pas. Et que, bien évidemment, on peut se poser ces questions, des questions autour de la lenteur des choses, parce que il y a quand même pas mal de malades aujourd'hui en France qui souffrent de troubles.
Et puis ça peut arriver à tout le monde. Hein. Mais bon, le problème, c'est que vous partez là-bas pour une dépression, vous ressortez, vous êtes bipolaire, quoi. C'est que c'est dramatique. C'est pour ça que la Belgique, si vous voulez, ce qui est bien là-bas, c'est qu'ils ne mélangent pas tout le monde.
Qu'entendez-vous par là, en fait ? Qu'entendez-vous par là ?
Si vous voulez, moi, où est Benjamin ? Ils prennent que des jeunes qui ont des problèmes comme Benjamin, psychiatriques, et ils essayent de les rendre stables. Si vous voulez, c'est une structure qui est très, très familiale. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un directeur qui est... Ça fait du bien de savoir que, quand vous êtes dans ce milieu, de savoir qu'il y a encore des gens formidables. Et ils mettent tout en place pour que, pour que les jeunes adultes aient une vie à peu près normale malgré leur pathologie.
En tout cas, merci pour votre témoignage ce soir sur l'antenne Europe 1. Vous avez créé donc une association. Vous participez.
L'association, c'est soutien à Dimitri Farjette. Dimitri, ça fait des années qu'il est en structure psychiatrique attachée. Il vit dans 10 mètres carrés. Moi, j'y ai été pendant 3 ans. Je l'ai vu que 3 fois. Donc, je me suis associée à son frère Nicolas. Aujourd'hui, il y a l'association ARA qui s'est aussi greffée à notre association. Et si vous voulez, on a beaucoup de témoignages de familles du Jura qui ont connu Benjamin, donc qui peuvent exprimer aussi ce qu'ils ont vu. Et on a aussi beaucoup de gens de partout la France, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas que dans cet hôpital que régnait toute cette maltraitance. Quoi.
En tout cas, on peut trouver votre association donc sur Facebook. Vous trouvez facilement. Et si vous avez envie d'adhérer, bien évidemment, à soutien à Dimitri Farjette, on trouve ce collectif qui réunit donc plusieurs familles aujourd'hui. Et qui œuvre pour bien que les choses s'améliorent, bien évidemment, dans le système hospitalier psychiatrique français. Merci beaucoup, Odile, pour votre témoignage ce soir. Courage à vous. Courage à vous.
Du courage, on en a.
Oui, je me doute.
On se bat par amour pour eux, parce qu'une maman, ça reste une maman. Et puis, voilà, c'est l'amour qui nous mène, qui nous guide, qui nous donne toute cette force. Et aujourd'hui, c'est aussi de se rendre compte qu'on n'est pas seul au monde. Il y a des milliers de familles qui le vivent et puis qui comme moi, choisissent l'exil en Belgique. Ce qu'on espère aussi pour Dimitri, parce que voilà. Et on va continuer à se battre pour tous les autres, parce qu'il faut savoir aussi qu'en psychiatrie, la plupart des familles ne sont plus présentes. Ça, c'est pas un jugement, parce que c'est difficile à vivre.
Parce que les gens fatiguent.
Voilà, et ils profitent aussi beaucoup de ces gens-là qui n'ont pas de famille. Et quand on a une famille et qu'on a beaucoup de choses à leur dire, quand on devient un peu contre eux, je vous explique pas ce qu'on soit, on doit subir des pressions. Moi, mon fils, ils ont voulu le faire partir en UMD à Bron. J'ai pas voulu, parce qu'un UMD, c'est quand même une unité pour malades difficiles. Le frère à Nicolas, Dimitri, il y est parti 6 mois sans que la famille soit prévenue. Le préfet a fait ce qu'il fallait pour tout compte fait, au bout de 6 mois, dire qu'il n'avait pas sa place là-bas. Tout ça, c'est de la menace. C'est pour faire peur aux familles. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui ne parlent pas et qui nous l'expriment, parce qu'elles ont peur des représailles pour leurs frères, pour leurs cousins, peu importe, parce qu'elles savent très bien que de toute façon, si elles osent parler, ça sera comme nous, il y aura représailles sur leur malade. Quoi. Donc c'est ça qui est affreux.
Si vous êtes, vous qui écoutez, concerné par cette problématique, si quelqu'un de votre famille, votre enfant ou un membre de votre famille connaît ces difficultés dans l'hospitalisation, n'hésitez pas. L'association s'appelle Soutien à Dimitri Farjette et vous pouvez retrouver très facilement sur Facebook. Je dis ça à l'intention de Martine qui venait de me poser la question. Mille merci, Odile, pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Et je vous embrasse et je vous souhaite bon courage. Et
moi
embrassez
aussi,
bien Benjamin
beaucoup.
Pour nous. Au revoir.
D'accord. Au revoir.
Au revoir.
Olivier.